Mesdames et messieurs, bonsoir. Deuxième étape de notre voyage à travers l'histoire du christianisme. Après la question de savoir où commence l'histoire du christianisme, nous allons en poser aujourd'hui une autre. Qu'est-ce que c'est qu'un hérétique ? Hier encore, un ami de Genève m'a dit s'être fait interviewer par un magazine brésilien à propos de Calvin. Et voilà qu'on lui pose comme première question, ce qui suit, dites-nous en quoi l'institution de la religion chrétienne de Calvin est un livre hérétique. Vous voyez, la question n'était pas « est-ce que Calvin est hérétique ?» mais « en quoi sa théologie est-elle hérétique ?» À l'évidence, on voit bien qu'une question comme celle-ci est mal posée. Et on voit bien qu'on est davantage, quand on pose une telle question, dans l'univers mental du XVIe siècle plutôt que dans celui du XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un hérétique ? Eh bien, l'objectif de notre étape de ce jour, ça va être de poser la question de ce concept. Et comme nous allons très rapidement le voir, comme vous le pressentez, il n'y a jamais d'hérétique absolue. On est toujours l'hérétique de quelqu'un. Il n'y a pas comme ça un hérétique qui serait hérétique absolument, indépendamment de tout le reste. On est toujours hérétique de façon relative, hérétique par rapport à quelque chose, et nous aurons l'occasion de le voir. Et puis, le second objectif, c'est de proposer une introduction aux hérésies du début du christianisme. Nous irons au IIe siècle et nous verrons ce que sont ces mouvements qu'on a appelés des hérésies, le gnosticisme d'abord, Marcion ensuite. Voilà donc le menu qui nous attend aujourd'hui. Et je vous propose notre premier paragraphe, le type idéal de l'hérétique. Alors, j'emprunte bien évidemment cette notion de type idéal à Max Weber, qui essaye de faire comme un portrait robot d'un certain nombre de personnages, d'acteurs sociaux, comme le capitaliste, comme le puritain, pour montrer qu'il y a des liens entre eux. Alors, quel est le type idéal de l'hérétique, le portrait robot de l'hérétique ? J'aimerais essayer de construire cela avec vous en prenant un exemple qui est apparemment assez simple, où l'on voit bien qu'il y a d'un côté une institution et de l'autre un hérétique. Alors, ce qui va nous occuper maintenant, ça n'est pas du tout la question de savoir si l'hérétique est gentil ou méchant, si on a bien fait ou si l'on a mal fait de le condamner. Mais nous regardons un épisode. Nous voyons fonctionner une institution qui condamne un hérétique. Les choses apparemment sont claires et nous allons voir, au cours de l'analyse, qu'elles ne le sont peut-être pas autant que ça. Nous sommes en 1415 et réunis en concile écuménique en cette année-là. En concile écuménique, c'est la réunion d'évêques qui viennent de l'ensemble de la chrétienté latine et qui débattent d'un certain nombre de problèmes. Ce concile a été réuni à Constance. C'est l'institution qui va condamner l'hérétique. Et de l'autre côté, il y a un prêtre de Prague qui s'appelle Jan Hus. Jean Hus, si vous voulez franciser son nom. Il est condamné pour hérésie. Donc d'un côté, une institution ecclésiastique qui est appuyé par le pouvoir civil, en l'occurrence l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Sigismond, et de l'autre un homme seul que tout le monde condamne parce qu'on le dit hérétique. Voyez, sur la base d'une définition sommaire, on pourrait appeler hérétique celui qu'une instance ecclésiastique autorisée juge comme tel, en raison d'un écart entre la doctrine évangélique et le discours de l'intéressé. Reprends cette définition, une instance ecclésiastique qui est légitime et qui constate que telle personne dit des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile. C'est ici qu'on parle d'hérésie. Mais alors, reprenons notre histoire du Concile de Constance pour voir que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il faut une instance ecclésiastique autorisée. Bon, le Concile de Constance a été convoqué par un pape. Ça arrive assez souvent. C'est comme ça depuis l'époque médiévale, en tout cas. Un pape convoque le concile de Constance et les évêques répondent à cette convocation. Le pape qui convoque le concile de Constance porte le nom de Jean et le numéro 23. Nous sommes en 1414, le pape Jean 23, et je ne me trompe pas dans le chiffre, convoque le concile de Constance. Jean 23 est l'un des papes de cette année-là. Et je ne me trompe pas non plus dans le nombre, parce qu'il y a la même année un autre pape qui s'appelle Benoît XIII. Et puis, il y a la vérité, un troisième pape qui s'appelle Grégoire XII. Chacun de ces papes a derrière soi une certaine obédience, c'est-à-dire un certain nombre d'églises qui le reconnaissent comme pape. Le plus important de tous, c'est Jean 23, parce qu'il a derrière lui toutes les églises italiennes. Et l'Italie, c'est une masse d'évêques prépondérante dans la chrétienté du XVe siècle. Voilà donc ce concile qui est convoqué, avec comme menu en particulier de mettre fin à ce qui déchire la chrétienté depuis un certain temps, à savoir un schisme. Car depuis une trentaine d'années, la papauté était divisée. Il y avait un pape à Rome et un autre en Avignon. Et deux papautés différentes. Le roi de France reconnaissait le pape d'Avignon, mais l'Angleterre, ennemie de la France, reconnaissait bien sûr le pape de Rome. Et l'Écosse, qui était en délicatesse avec l'Angleterre, elle reconnaissait aussi le pape d'Avignon. La carte de l'Europe était divisée en deux. Alors, pour tenter de mettre tout le monde d'accord, un concile en 1409 a déposé les deux papes régnants et en a nommé un autre. Mais le problème, c'est que les deux premiers n'ont pas voulu renoncer et qu'on s'est retrouvé entre 1409 et 1415 avec en Europe trois papes simultanés. On n'a jamais eu plus que ça à la même époque. Et, vous imaginez le trouble institutionnel. Donc voilà Jean 23 qui convoque le concile de Constance. Les évêques sont réunis et l'une des premières décisions de ce concile, c'est de déposer chacun des trois papes. Nous ne reconnaissons aucun pape, c'est le concile qui a l'autorité suprême. Et voilà que Jean 23, qui était là, sent le vent tourner contre lui, est effrayé, il se dit « on va peut-être m'arrêter, me mettre en prison, qui sait peut-être me condamner ». Et Jean 23, qui a convoqué le concile de Constance, s'enfuit dans la nuit sous un déguisement. Bon. Voilà donc notre concile qui siège. Lequel des trois papes est légitime ? À la vérité, il y a beaucoup de flottements qui règnent. On ne sait pas très bien où est la légitimité. Et à propos du nom de Jean, on est tellement peu sûr de la légitimité de ce pape Jean 23, est-ce que c'est un antipape ou un pape, qu'il faudra attendre très longtemps avant que quelqu'un, élu pape, ait le courage de revendiquer à nouveau ce prénom de Jean. Et quand Roncalli, en 1958, a dit « Eh bien, vous me nommez pape, je serai Jean », il y a eu un petit flottement à la Curie. Et je crois qu'on a dû attendre le lendemain pour dire quel serait son numéro. Est-ce que c'est Jean 23 ou est-ce que c'est Jean 24? Au début, on ne le savait pas. Et puis le lendemain, on s'est dit « Non, après tout, tranchons, le vrai pape, je crois que c'est Grégoire XII ». Puis les autres sont des antipapes, mais ça, on l'a décidé seulement en 1958. Ce qui fait qu'il y a eu, dans l'histoire de papes, deux papes numéro Jean 23. Hein, Jean numéro 23. Ça compense parce qu'on s'est trompé dans l'arithmétique. À une autre époque, au Moyen-Âge, on a sauté directement de Jean 19 à Jean 21. Il n'y a jamais eu de pape Jean numéro 20. L'équilibre est peut-être rétabli. Toujours est-il que ce n'est pas de Roncalli, mais de Jean 23 du XVe siècle dont je parle ici. Alors voici comment le concile de Constance revendique sa propre légitimité. Texte A. Tout d'abord, ce concile, ce synode, synode ne veut pas dire autre chose que concile. Synode est le mot grec qui correspond au
Concilium latin. Ce concile, légitimement assemblé dans l'Esprit Saint, existant comme concile général et représentant l'Église catholique militante, tient son pouvoir immédiatement du Christ. Tous, de quelque état ou dignité qu'ils soient, celle-ci fut-elle papale, sont tenus de lui obéir. Le pape n'est pas à la tête de l'Église. Le pape doit obéir au concile. Et d'ailleurs, au moment où ce décret est prononcé, en 1415, eh bien, le concile ne reconnaît aucun pape. Bon, il en élira un par la suite, mais ce sera seulement l'affaire de 1418. Bien. Légitimité d'un concile, vous voyez que la question peut se poser. Ce concile, pourtant, c'est celui qui condamne l'hérétique, qui condamne Jean Hus. Alors maintenant, regardons ce personnage. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il serait éloigné de la doctrine évangélique ? Lui-même affirme se faire le serviteur de l'Évangile. Voici quelques thèses de Jan Hus qui sont condamnées par le Concile de Constance. C'est à la lettre B que vous avez cela. La Sainte Église universelle, constituée de l'ensemble des prédestinés, c'est ainsi que Hus en parle, est unique. La dignité papale s'est développée à partir de César. C'est l'empereur qui a donné son pouvoir au pape. Nous aurons l'occasion de revoir ça lors d'une prochaine séance. Personne ne tient la place du Christ ou de Pierre, à moins de limiter par sa conduite. Et puis enfin, il n'existe pas le moindre indice apparent qu'il faille une seule tête pour gouverner l'Église en matière spirituelle. On pourrait très bien imaginer que l'Église soit gouvernée par un concile. Eh bien, voyez cette phrase de Hus qui est condamnée à Constance. Ben, les pères de Constance qui le condamnent sont tout à fait d'accord pour le dire. Et de facto, ils ont eux-mêmes déposé le pape. Alors, est-ce que c'est vraiment hérétique que de dire qu'il n'y a pas d'indice qu'il devrait y avoir dans l'Église une personne qui serait à la tête et qu'on pourrait imaginer, par exemple, en collège qui présiderait à l'Église? Est-ce que c'est vraiment hérétique? En tout cas, ceux qui condamnent Hus comme hérétique pour avoir dit cela, dans les faits, viennent de se montrer tout à fait fidèles, paradoxalement, à ce que Hus dit ici. Pour le reste, est-ce que Hus est éloigné de la doctrine évangélique? C'est quelque chose qui doit faire l'objet de débats sur la base d'une méthode très précise. Dans les années 60, un théologien catholique romain a écrit un livre sur Hus, et il était passionné par Hus, il le trouvait sympathique, mais il a quand même appelé son livre « L'hérésie de Jean Hus ». Pourquoi l'hérésie de Jean Hus? Bien, c'était pour présenter une carte de visite d'authenticité catholique romaine, en disant « je vais vous parler d'un hérétique ». Alors, même si cet hérétique est sympathique, il demeure hérétique, et dans le titre du livre, on a bel et bien ce mot « hérésie ». Qu'est-ce qui permet de dire qu'il est hérétique? Vous voyez bien qu'il est l'hérétique du Concile de Constance, l'hérétique d'une tradition, mais que par rapport à l'Évangile, la question se pose. On ne va pas parler de Hus aujourd'hui, envisager plutôt l'hérésie du début de l'histoire du christianisme, mais vous voyez que même là où il semble que les choses sont claires, vous avez un concile médiéval qui, en grande pompe, condamne un bonhomme comme hérétique, même là, on peut poser des questions. Quelle est la légitimité de ce concile? Quelle est l'erreur de cet homme? Autant de questions qui restent ouvertes. En fait, les pères du concile de Constance s'inscrivent dans un processus qui est tout à fait classique. Trois points pour ce processus. Le premier, il y a des hérétiques. Donc, cela existe, il y a autour de nous des hérétiques, c'est-à-dire des gens qu'on définit de trois façons différentes. D'abord, ils se trompent en matière de foi. Mais je vous rassure, il ne suffit pas de se tromper en matière de foi pour être hérétique. Parce qu'on peut se tromper, le prêtre ou l'évêque vient vers vous en disant « Mais cher ami, tu commets ici une erreur. » « Ah ben bien sûr, excusez-moi, je me suis trompé. » Réagir comme cela, c'est montrer qu'on n'est pas hérétique. L'hérétique se trompe, et il se trompe avec obstination. Il est pertinax, obstiné dans son erreur. On vient lui dire qu'il se trompe, et même si l'Église prend le soin de lui dire « ici, là et là, tu te trompes, mon ami », l'hérétique, c'est celui qui va dire « ah, Ah non, désolé. Regardez, par exemple, l'Évangile. Regardez tel ou tel père de l'Église. Je ne me trompe pas. Ça, c'est le deuxième critère qui fait l'hérétique, traditionnellement. Il se trompe et il est obstiné dans son erreur. Enfin, il y a un troisième critère, parce que les deux premiers ne suffisent pas pour condamner quelqu'un. Si je me trompe, que je m'obstine dans mon erreur, mais que je ne vais pas en parler à qui que ce soit autour de moi, je ne serai pas condamné. L'hérétique, c'est celui qui va chercher à répandre son erreur, celui qui va communiquer l'erreur aux autres, celui qui va tenter de contaminer l'Église avec ce qui apparaît comme une erreur. Et c'est ainsi que Jan Hus remplit ces trois critères. Il se trompe, il est obstiné dans son erreur et il répand son erreur autour de lui. Il y a donc des hérétiques comme Hus. Deuxième élément que les pères de Constance considèrent comme allant de soi, qu'ils ne remettent pas en question, c'est que les hérétiques sont dangereux. Si vous êtes médecin ou infirmier, infirmière, que vous travaillez dans un milieu hospitalier et qu'on vous dit que tel gonocoque est dangereux, eh bien, vous admettez que la chose est dangereuse. Vous ne remettez pas ça en question. Vous n'allez pas dire, ben tiens, après tout, est-ce que c'est vraiment dangereux? Essayons d'en disséminer dans tel étage de l'hôpital et puis on verra si c'est vrai que c'est effectivement dangereux. Non, on ne remet pas cela en question. Et l'infirmière stagiaire qui arrive là n'a pas le droit de remettre en question ce qu'un chef de laboratoire lui dit à propos de tel ou tel virus ou de telle ou telle bactérie. Bon, eh bien, c'est comme ça qu'on procède avec les hérétiques. Ils sont dangereux. Et cela, tout le monde l'admet, on ne le remet pas en question. Et puis, troisièmement, et c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire, si les hérétiques sont dangereux, il faut intervenir contre eux. Il faut intervenir pour que la contagion cesse, pour qu'on ne les écoute pas. Il faut intervenir pour les empêcher de parler. Il faut brûler leurs écrits. Et si ça ne suffit pas, il faut les condamner à mort eux-mêmes. Et c'est ainsi que Hus va être condamné, ce sera au mois de juillet 1415, par le Concile de Constance. Il sera brûlé à Constance, non pas que l'Église ait le pouvoir de brûler, vous savez, les prêtres ne sont pas, ne mettent pas la main, ne frottent pas l'allumette du bûcher, ils transmettent l'hérétique au bras séculier, et c'est le bras séculier qui s'occupe ensuite de la condamnation à mort. En mourant, condamné par l'Église, Jan Hus s'inscrivait dans une longue tradition. Il y a eu, au cours des siècles précédents, un certain nombre d'hérétiques qui ont été condamnés. Nous aurons l'occasion, dans quelques semaines, de parler des cathares. Avant les cathares, il y a eu quelques autres hérétiques condamnés au cours des siècles. La vérité, le plus ancien d'entre eux a été condamné à la fin du IVe siècle. C'était un Espagnol qui s'appelait Priscillien. Il a été condamné et exécuté à Trèves en 385 ou 386. Et puis, le tout dernier qui a été condamné pour un crime qui ressemble à celui de l'hérésie, en tout cas en Europe occidentale, c'est un chevalier qui s'appelait de la Barre et qui a été condamné au XVIIIe siècle sous Louis XV pour blasphème. Alors, ce n'est pas vraiment un hérétique, c'est un blasphémateur, ça s'apparente à l'hérésie. L'homme était pris de boisson et il a endommagé une statue de la Vierge qui se trouvait à tel endroit. Il a été condamné à être décapité. On est dans les années 1760 et c'est le dernier qui, en Europe, est condamné pour hérésie ou pour blasphème. Indépendamment du fait, condamné à mort, s'entend. Indépendamment du fait que la peine de mort n'existe plus, ni l'hérésie, ni le blasphème ne sont aujourd'hui des délits. Si vous entendez quelqu'un dans la rue prononcer un juron dans lequel il y aurait le nom de Dieu ou du Christ ou de Marie et que vous allez au poste de police le plus proche pour dénoncer le personnage et décrire son signalement, j'imagine que le commissaire ne va pas mettre toutes ses brigades aux trousses de ce bonhomme. Ça n'est plus un délit que de blasphémer. De la même façon, si vous rencontrez quelqu'un qui profère ce qui vous apparaît comme d'affreuses hérésies à propos de la Trinité, que nous verrons la semaine prochaine, ou quelque autre article du credo que ce soit, et que vous allez au poste de police le plus proche pour dire « en matière de Trinité, cet homme se trompe complètement, c'est un nouveau Michel Servet », je ne pense pas que la police va se mettre à la recherche de ce bonhomme. L'hérésie n'est plus en délit. En revanche, dans les sociétés anciennes, l'hérésie, le blasphème sont des délits, et la société civile considère qu'elle doit intervenir contre l'hérétique, contre le blasphémateur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un élément qui est important dans la vie sociale des sociétés d'Ancien Régime et qu'on a oublié aujourd'hui. On peut s'en réjouir ou on peut s'en désoler, hein, selon, c'est une pièce de monnaie qui a deux faces. C'est la notion d'honneur. Voyez, si nous avions demandé aux anciens de dire ce qui est important dans la vie sociale, on aurait mis un certain nombre de valeurs, et notamment l'honneur. Bon, aujourd'hui, on parlera d'autres valeurs, mais allez demander à vos contemporains quelles sont les valeurs essentielles. On parlera de respect de l'autre, on parlera de droit à la différence, on parlera de solidarité, on parlera de liberté, etc. Hein, toutes valeurs qui sont importantes, bien évidemment. Mais si vous aviez posé cette question à quelqu'un de l'époque où l'on condamnait des hérétiques, il aurait dit, parmi les valeurs qui font qu'une société tient, il y a l'honneur. Or, l'hérétique ou le blasphémateur, ce sont des gens qui portent atteinte à l'honneur de Dieu. Et si la société n'intervenait pas contre eux, elle se rendrait complice de ces hérétiques ou de ces blasphémateurs. Donc voilà, en gros, nos hérétiques, ce sont des gens qui sont condamnés par un pouvoir ecclésiastique parce qu'on perçoit un écart entre l'Évangile et ce qu'ils disent. Cela étant dit, on n'a pas encore défini l'hérétique, on a simplement décrit une situation, on a montré que cette situation était problématique et que même là où les choses paraissent claires, en concile, bien établi, une personne isolée de l'autre côté, même là, on peut poser la question de la légitimité de l'instance condamnatrice et on peut poser la question de l'interprétation de ce que dit cette personne par rapport à l'Évangile. Ces questions restent ouvertes. Afin de les préciser un tout petit peu, je me propose de vous convier maintenant, longtemps en arrière, on va faire un grand saut dans le temps, et puis essayer de voir comment se pose la question de l'hérésie dans les tout premiers siècles du christianisme. Nous avons déjà rencontré la semaine dernière cette position des hérésiologues, des théologiens spécialistes de l'hérésie, qui est classique. Je vous la rappelle, l'orthodoxie est donnée à l'origine par la prédication du Christ. Le Christ ne peut pas se tromper quand il prêche l'Évangile. L'orthodoxie est là. Elle est donnée. Les disciples vivent de cette orthodoxie. Ils sont gagnés à la foi. D'incroyants qu'ils étaient, avant d'entendre la parole du Christ, ils deviennent croyants et se développent ensuite des communautés dans lesquelles on partage la foi. Et puis enfin, survient, comme le ver qui vient attaquer la pomme, survient l'hérésie qui va corrompre la foi. Bien, on a trois temps hein, dans ce schéma classique. D'abord l'incroyance, ensuite la foi, ensuite l'hérésie. Vous voulez, la foi, c'est la foi droite, la foi juste. Et vous savez que la foi droite ne se dit pas autrement en grec que orthodoxie. La foi droite, l'orthographe et la graphie droite des choses, juste, correcte. L'orthodoxie, c'est la façon droite, correcte, de rendre grâce à Dieu et de confesser la foi. Eh bien, ce schéma, incroyance, foi droite, hérésie, c'est celui des pères de l'Église. C'est comme ça que parle en Tertullien, par exemple. Ce grand théologien, le premier théologien à s'exprimer en latin, celui à qui on doit d'avoir traduit en latin un certain nombre de concepts grecs qui n'existaient pas en latin. Il est mort au début du IIIe siècle. Vers 310-320, et voilà ce qu'il écrit à propos de Marcion, dont nous aurons à parler plus tard. Les disciples de Marcion, C'est un exemple qu'on donne, on pourrait le mentionner, trouver de tels exemples à propos d'autres hérétiques. Les disciples de Marcion ne nieront pas qu'il a, pour commencer, partagé notre foi. Je m'interromps ici. Vous voyez ce schéma? Il a commencé par partager notre foi. Parce que l'hérésie ne peut pas survenir dans un autre terrain que celui de la foi. Il a pour commencer partagé notre foi. Aussi peut-on, à partir de là, le définir comme hérétique, puisqu'il a abandonné sa confession primitive pour s'en choisir une. Et il y a ici le mot de choisir, hein, qui correspond au verbe grec aireo, qui a précisément donné le concept de choix aïresis, hérésie. Donc Tertullien traduit le mot grec hérésie ici par un latin choix. Il s'est choisi une confession qui n'existait pas dans le passé. Car ce qui est d'introduction postérieure, on le tiendra pour hérésie, dans la mesure où l'on considère comme vérité ce qui a été enseigné dans le passé et dès l'origine. Voilà la position classique. Très simple à comprendre. Ce qui est enseigné dans l'origine, c'est la vérité. Puis vient ensuite l'hérésie. Au IVe siècle, Eusèbe de Césarée, que nous avions cité mercredi dernier, Eusèbe de Césarée dira exactement la même chose. Quand il écrit son histoire ecclésiastique, il montre bien qu'il y a d'abord la vérité, et puis ensuite un certain nombre d'hérésies dont il va essayer de tracer la généalogie. Ce schéma classique est très ennuyeux, au moins pour deux raisons. C'est que si, ainsi que la recherche actuelle nous l'a montré, si Jésus de Nazareth est lui-même un hérétique du judaïsme, comment est-ce qu'ensuite on peut faire la distinction entre les disciples orthodoxes de Jésus et les disciples hérétiques de Jésus? Et d'abord, comment savoir exactement ce que Jésus a enseigné? Je vous rappelle que personne parmi nous n'a d'accès direct à l'enseignement de Jésus. Cet accès, nous l'avons par des textes. Nous ne l'avons pas directement. Cet accès est médiatisé par des témoins qui ont dit un certain nombre de choses de Jésus, qui ont retranscrit certaines de ses paroles. Mais ces témoignages, ça n'est pas des enregistrements sonores du discours sur la montagne ou de telles paraboles de Jésus. Quand le Jésus de l'évangile de Jean dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », les néo-testamentaires d'aujourd'hui ont bien compris que c'est là la façon qu'a l'évangéliste Jean de dire sa confession de foi en Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Dans le cas contraire, on aurait beaucoup de mal à expliquer pourquoi des paroles aussi fortes de Jésus, qui auraient dit « je suis la vie », ne se retrouveraient pas chez les autres témoins, Matthieu, Marc, Luc. Donc nous avons des témoignages de ce qu'a dit Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas accès directement à sa parole. Et l'étudiant qui viendrait à un examen en disant « je n'ai pas besoin de lire le Nouveau Testament parce que Jésus m'apparaît en songe chaque soir et me dit telle ou telle chose », embarrasserait beaucoup les profs. Hein? On ne pourrait pas juger sa compréhension du message de l'Évangile s'il se mettait à faire état d'une révélation immédiate. Ce ne serait pas dans l'ordre de l'étudiant ou de l'étudiante qui apprend, on serait plutôt dans le registre de la prophétie. Et alors là, les universités sont incapables de mettre des notes à des prophètes. On ne peut pas faire ça, on n'est pas mandaté pour ça, on n'est pas équipé pour ça, on est dans un autre genre littéraire. Bon, alors si on n'a pas accès directement à la parole de Jésus, comment est-ce qu'on peut juger définitivement de l'hérésie ou de l'orthodoxie? Il y a 75 ans, un bouleversement majeur dans l'historiographie. Nous sommes en 1934 et un grand spécialiste du Nouveau Testament, professeur à Göttingen, Walter Bauer, publie un livre qui aura beaucoup d'écho, pas tout de suite, mais un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il publie ce livre en 1934. Malheureusement, pour l'Allemagne, malheureusement pour l'Europe et le monde, les Allemands ont d'autres soucis en tête dans les années 30 que de consacrer toute leur énergie à discuter pour savoir ce que c'est que l'hérésie dans l'Église ancienne. C'est la raison pour laquelle ce livre de Bauer aura des échos surtout après la guerre. Il connaîtra une nouvelle édition dans les années 60, et puis il vient d'être traduit en français. Je vous ai indiqué ici la traduction qui vient de paraître il y a 2 mois, je crois, aux éditions du CERF. Voici quelques propos de Bauer dans cette traduction. Alors, je vous cite ici, c'est à la lettre D. Vous voyez que je vous cite un livre paru en 2009, mais c'est un tout petit peu truqué, puisque en réalité, il s'agit d'une traduction d'un texte d'un historien de 1934. Peut-être, j'insiste sur ce peut-être, certaines manifestations de la vie chrétienne que les auteurs ecclésiastiques classent parmi les hérésies n'en étaient-elles pas à l'origine, mais représentaient ici ou là la seule expression de la religion nouvelle, c'est-à-dire tout bonnement le christianisme. Je m'interromps ici. Voyez cette hypothèse révolutionnaire que propose Bauer. Il se peut, dit-il, et vous percevez sa prudence, il se peut que, ici et là, quand on parle du christianisme à la fin du 1er siècle ou au 2e siècle, eh bien, ça n'est pas ce qu'on appellera plus tard l'orthodoxie, mais c'était une hérésie. Et comme il n'y a rien d'autre, c'est tout bonnement le christianisme. Le christianisme qui apparaît à tel endroit, nous allons voir lesquels, sous cette forme-là. Il est possible aussi que ces chrétiens aient été ici ou là majoritaires et qu'ils aient détesté et méprisé les orthodoxes qu'ils considéraient comme des hérétiques. Je ne dis pas cela afin d'introduire dans les recherches qui vont suivre une terminologie particulière où orthodoxie correspondrait au courant majoritaire, tandis que hérésie se trouverait définie par le fait que seule une minorité y adhère. Majorité et minorité peuvent s'inverser. Si bien que cette terminologie peu apte à épouser de tels changements conduirait facilement à des problèmes d'intelligibilité et des malentendus. Non, les termes orthodoxie et hérésie conserveront dans ce livre leur signification usuelle et traditionnelle. On va revenir sur cette question-là. L'important, c'est dans la phrase qui suit maintenant, mais il est clair que Il est clair que la parole sera donnée, non pas à l'Église, qui représente l'un des partis, mais à l'histoire. Bauer ne se fait pas ici l'avocat de l'Église dans sa tradition majoritaire. Il intervient comme historien qui va chercher à comprendre quel est le christianisme des origines. Et il va proposer une méthode radicalement nouvelle en son temps. Il pose en particulier la question du silence des sources. Nous avons des sources qui nous disent un certain nombre de choses sur le christianisme des premiers siècles, mais ces sources sont parfois étonnamment silencieuses à propos de certaines régions. Par exemple, pourquoi est-ce que Eusèbe de Césarée ne dit quasiment rien de l'Égypte ? Voyez, l'Égypte, c'est un pays très peuplé. Alexandrie, après Rome, est la 2e ville de l'Empire romain. On a dit parfois qu'il y avait une capitale de l'Empire romain au nord de la Méditerranée, c'est Rome, et une capitale au sud de la Méditerranée, c'est Alexandrie. On sait qu'à Alexandrie, il y a une communauté juive très importante. C'est à Alexandrie que les juifs de langue grecque ont traduit d'hébreu en grec tous les textes de la Bible, cette traduction qu'on appelle la Septante. On sait par ailleurs que les apôtres se sont rendus prioritairement dans toutes les communautés juives de la diaspora. Ils allaient rencontrer leurs frères juifs qui célébraient à la synagogue d'Édesse ou de Corinthe ou de Rome, d'Antioche ou d'Alexandrie, qui célébraient le culte. Et c'est là qu'ils allaient les rencontrer. Or, pour ce qui est d'Alexandrie, qui est une terre de mission prodigieuse, comment est-ce que ça se fait que les sources officielles ne nous disent quasiment rien ? Eh bien, probablement, a suggéré Bauer, parce que le christianisme qui règne dans une région comme l'Égypte est un christianisme fortement hérétique. En l'occurrence, il s'agirait d'un christianisme gnostique, et nous allons voir tout à l'heure, après la pause, ce qu'a été le gnosticisme. Autre question que pose Bauer. Pourquoi est-ce que Eusèbe, toujours lui, nous dit avec insistance que tel document, à propos des communautés chrétiennes, tel document a été conservé jusqu'à ce jour? Et Eusèbe dit, oui, nous l'avons, il a été conservé jusqu'à ce jour, sinon peut-être pour laisser entendre que la règle serait de détruire des documents qui ne correspondraient pas à la ligne qu'on pourrait appeler officielle de l'Église. Voyez, Walter Bauer inverse le jugement. Pour lui, au IIe siècle, le christianisme du monde méditerranéen, en Syrie par exemple, il y a beaucoup de chrétiens, à Édesse, mais nous n'en savons pas grand-chose, en Égypte, même à Antioche, ce christianisme est majoritairement hérétique. L'orthodoxie viendra de l'Église de Rome. Et si vous reprenez l'image de la parabole du champ semé avec du bon grain dans lequel l'ennemi vient mettre un peu d'ivraie, de mauvaise herbe, mais il faut inverser d'une certaine façon la parabole. L'hérésie, ça n'est plus l'ivraie qui est éparse dans le champ, mais elle domine le bon grain. Donc le christianisme du IIe siècle, à écouter Walter Bauer, est un christianisme qui est majoritairement hérétique, au sens où plus tard on parlera d'hérésie. Il écrit son livre en 1934. Survient ensuite la guerre, et au lendemain de la guerre, un événement qui va bouleverser la recherche et renouveler prodigieusement les connaissances en matière de christianisme ancien. Cet événement, c'est la découverte de textes conservés sur des papyrus en Égypte. Ces textes sont découverts centaines de kilomètres au sud de Louxor, dans la vallée du Nil, à Nag Hammadi. Je vous ai indiqué dans la bibliographie un dernier titre qui vous donne un certain nombre de textes traduits en français de ce corpus de Nag Hammadi. Le climat d'Égypte, particulièrement sec, permet la conservation des papyrus. Essayer de conserver un papyrus en Grèce, il ne résiste que quelques dizaines d'années. Et voilà qu'en Égypte, on a conservé des papyrus qu'au XXe siècle encore, on a pu lire. Ce sont des textes du IVe, du Ve, du VIe siècle qui reproduisent des documents plus anciens. Eh bien, la plupart de ces textes de Nag Hammadi sont des textes gnostiques, des textes chrétiens de cette mouvance hérétique. Alors, Bauer ne le savait pas quand il écrivait en 1934. Et voilà que cette découverte, 12 ans après, confirme son hypothèse. Et l'on voit que son intuition était fondée. Évidemment, on a pu reprocher beaucoup de choses à Bauer. La recherche a continué. Les spécialistes des hérésies anciennes ont montré qu'ici et là, sur tel point qui concerne l'Égypte, par exemple, ou la Syrie, l'analyse que fait Bauer ne tient pas. En particulier, Alain Le Bouluec, qui est aujourd'hui un grand spécialiste des hérésies de l'Église ancienne, Alain Le Bouluec a préfacé le livre de Bauer en traduction et a montré ce qu'aujourd'hui on ne dira plus de la même façon que Bauer. Mais ce faisant, Le Bouluec, comme les autres savants, rendent hommage à l'hypothèse féconde de Bauer. C'est un peu de ces grands savants qui, comme Max Weber, lancent une théorie dont ensuite tout le monde peut dire « mais ici, vous vous trompez, là, c'est faux ». Mais le fait qu'on continue quelques dizaines d'années plus tard à dire « ici, Max Weber, qui écrivait en 1905, s'est trompé », montre bien que ce que dit Max Weber donne à penser. Même phénomène à propos de Walter Bauer, qui reste dans l'histoire de notre compréhension des origines du christianisme, un tout grand nom du XXe siècle. Ce qu'on reproche à Bauer, c'est en particulier aujourd'hui, tout simplement, d'avoir conservé les noms d'orthodoxie et d'hérésie. Voyez, nous l'avons lu tout à l'heure. Je ne vais pas changer, dit-il, ce qu'on appelle traditionnellement orthodoxie ou hérésie. Parce que si je disais que l'orthodoxie, c'est le christianisme majoritaire, je devrais dire qu'en Égypte, les gnostiques sont orthodoxes et que les autres sont des hérétiques. Mais à Rome, ce serait différent. Donc, par commodité, Bauer a gardé ses termes. Il n'y a chez lui pas le moindre jugement de valeur. Il ne se met pas au service de l'Église, mais au service de l'histoire.
aujourd'hui, ces termes, orthodoxie et hérésie, gênent les historiens. Alors, ils disent tous que ça les gêne, mais ils continuent à les employer par commodité, parce que ça pourrait impliquer un jugement de valeur. L'orthodoxe, c'est celui qu'il faut lire positivement, et puis l'hérétique, c'est celui qu'on condamne. Donc, entendons, quand on lit ces termes sous la plume d'historiens d'aujourd'hui, comme le Boulouillac, entendons-les sans aucune nuance péjorative ou laudative. L'hérétique, c'est celui qui est reconnu comme tel par telle communauté chrétienne, c'est pas celui qui est reconnu comme tel par l'historien. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, l'historien n'est pas un juge, hein, celui qui cherche à comprendre. Toujours est-il qu'en gardant ces notions d'hérésie, d'orthodoxie, Bauer n'a pas rendu un service clarificateur à la recherche qui a suivi. Ce d'autant moins qu'il n'a pas pris la peine de définir ces termes. Il n'arrête pas dans son livre, de la première à la dernière page, de parler d'orthodoxie et d'hérésie, mais jamais il ne donne une définition de ce qu'il considère comme orthodoxe ou hérétique. Bon, toujours est-il que l'on comprend depuis Bauer que l'orthodoxie, cet enversant du christianisme qui progressivement a été dominant et puis a poursuivi son fractionnement. Parler d'orthodoxie pour les premiers temps du christianisme, c'est désigner une position chrétienne en matière de foi, ça n'est pas encore s'inscrire dans la perspective plus tardive d'une opposition entre une église grecque qui revendiquera l'adjectif orthodoxe et une église latine qu'on finira par appeler romaine. C'est pas du tout dans ce sens-là, dans les premiers siècles, qu'on parle d'orthodoxie, mais bien au sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la foi droite. Le Boulouillec a apporté un certain nombre d'éléments qui complètent l'analyse de Bauer. Je vous propose d'en prendre connaissance après que nous aurons respiré quelques minutes. Qu'est-ce que nous savons de plus aujourd'hui qu'à l'époque de Bauer en matière d'hérésie du début du christianisme? Une notion qu'Alain Le Boulouec a apportée et qui est nouvelle est celle-ci, c'est que la notion d'hérésie, comme celle d'orthodoxie, apparaît non pas dans la toute première génération, mais plus tard, au moment précisément où s'éloigne la perspective d'un retour imminent du Christ. Vous voyez, les premiers disciples ont vu le Christ partir et ils attendent son retour. Mais ce retour, c'est une affaire de semaines, de mois, d'années peut-être. Et c'est ainsi qu'on a dans les textes du Nouveau Testament des traces d'une attente imminente du Christ. Il va revenir. Dans cette perspective d'une attente imminente du Christ, nous sommes au dernier temps, il va revenir, nous sommes tout proches de la fin des temps. On ne parle pas d'orthodoxie, on ne parle pas d'hérésie. On parle de disciples, on parle de faux prophètes. C'est seulement par la suite, quand la perspective d'un retour imminent s'évanouit, que les communautés chrétiennes se mettent à se construire de façon institutionnelle. Et dans le Nouveau Testament, on a déjà des traces de cette construction, en particulier dans le corpus des épîtres plus tardives qu'on appelle le corpus deutéro-paulinien, ces épîtres qui souvent sont attribuées à Paul, mais font état de problèmes qui sont ceux de la deuxième génération chrétienne. Et c'est à ce moment-là, au moment où les communautés s'institutionnalisent, que l'on a besoin de recourir, c'est Boulouillec qui le dit, à des critères de délimitation, à des critères d'exclusion. À partir du moment où dans ces communautés, on va dire, nous excluons ceux qui ne pensent pas cela ou ceux qui ne font pas cela, eh bien, on a déjà en place le mécanisme qui, plus tard, aboutira à la procédure d'excommunication. Nous ne reconnaissons pas que telle personne fait partie de notre communauté, nous ne reconnaissons pas de communion avec elle, donc nous l'excluons de la communion, et c'est l'ex-communication. Au milieu du IIe siècle, les choses sont déjà établies. Il y a un théologien, Justin, qui écrit un texte, semble-t-il très important, mais malheureusement perdu, intitulé « Traité contre toutes les hérésies ». On connaît ce texte par Irénée de Lyon, qui le cite ici et là. D'autres dans l'Église ancienne savent que ce texte existait, mais il a totalement disparu de la circulation. À partir de là, on parle de l'Église orthodoxe comme de la grande Église qui se définit contre ces hérésies, lesquelles seraient minoritaires. Et Justin va donner à tous les hérétiques une origine commune, une sorte de généalogie qui lui permet, malgré la diversité des hérésies, de tous les englober dans une même condamnation. Alors voilà un autre texte de Justin, c'est la lettre E que vous avez au verso de la feuille. Puisque son traité contre les hérésies est perdu, lisons ce qu'il dit dans l'Apologie pour les chrétiens. Après l'ascension du Christ au ciel, les démons suscitèrent des hommes qui se prétendirent des êtres divins. Un certain Simon de Samarie vint accomplir à Rome des prodiges de magie avec l'aide des démons qui les produisaient par lui. Il fut considéré comme un dieu. Tous ceux qui se réclament de ces gens-là sont, comme nous l'avons dit, appelés chrétiens, de même que ceux parmi les philosophes qui ne partagent pas les mêmes doctrines possèdent en commun le nom de la philosophie qui sert à les désigner. Une tête des hérésies, c'est Simon. Simon, ce magicien, derrière lequel il faut probablement voir la figure de cet homme qui apparaît dans le livre des Actes et des Apôtres, non pas à Rome, mais en Samarie, chapitre 8 des Actes. Cet homme est lui-même magicien et il voit Pierre et Paul opérer des miracles spectaculaires. Voilà qu'il reconnaît la puissance de ces miracles et qu'il souhaite lui-même pouvoir faire de tels miracles. Et ce Simon, vous vous rappelez l'histoire, va vers Pierre et Paul et puis leur dit « J'aimerais bien faire des miracles comme vous, c'est combien ?» Et voilà Simon qui propose d'acheter le pouvoir de faire des miracles. J'aime autant vous dire que Pierre le rabroue, lui dit « Enfin, arrière d'ici, fils de Satan, on n'achète pas ce pouvoir de Dieu. » Et c'est ainsi que Simon, le magicien, est un homme qui est condamné dans le livre des Actes et des Apôtres. Il est réprouvé. Voilà donc celui que Justin, un siècle plus tard, mettra probablement à la tête de toutes les hérésies. Alors, ces hérésies du 1er siècle, nous comprenons bien, au point où nous en sommes, que c'est un concept qui est forcément boiteux. Il y a différentes traditions qui, par la suite, ne seront pas reconnues comme étant fidèles à l'Évangile. Mais ces différentes traditions, quelles sont-elles? Et c'est ici qu'il me faut, de façon forcément schématique, introduire à deux hérésies. Et vous comprenez que chaque fois que je prononce le mot hérésie, c'est comme s'il y avait des guillemets avant et après. Deux hérésies du IIe siècle. La première, c'est une mouvance qu'on appelle le gnosticisme. La seconde est liée à un homme actif à Rome et en Asie mineure. Il s'appelle Marcion. Nous n'aurons pas vu l'ensemble des hérésies du IIe siècle quand nous aurons présenté le gnosticisme et Marcion, mais on recouvre déjà un champ suffisamment vaste avec ces deux mouvements. Le gnosticisme, d'abord, c'est une mouvance en terrain très complexe. Un très grand historien allemand d'aujourd'hui, Marc Schies, dont vous avez la référence sur la feuille que je vous ai donnée, a écrit un livre il y a quelques années d'Ignosis. Marc Schies dit que toute reconstruction de ce mouvement évolue, c'est son image, sur une glace fragile. On est en train de construire des choses quand on est historien, mais il y a tellement d'hypothèses qu'il faut rester prudent et modeste. C'est une nébuleuse plutôt qu'une école aux contours bien marqués. Comment est-ce qu'on peut définir le gnosticisme? Il y a une vingtaine d'années, un historien, Michel Tardieu, dans un livre qui s'appelait « Introduction à la littérature gnostique », a donné une définition très précise du gnosticisme. Cette définition, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle fait 17 pages. 17 pages de définition, c'est vous dire la difficulté qu'il y a à définir ce mouvement. Alors, plutôt que de résumer cette définition, nous allons essayer d'évoquer l'attitude du gnostique. Pour faire bref,
ce qu'on appelle la gnose, d'un mot grec qui veut dire connaissance. La gnose, c'est une attitude religieuse qui met l'accent sur la notion de connaissance, essentiellement dans le cadre d'un processus de salut. On est sauvé si l'on connaît un certain nombre de choses. Quand vous avez affaire à une religion qui vous présente une voie d'accès initiatique, qui vous donne des mots de passe, des codes qui vous permettent d'accéder à une connaissance supérieure grâce à laquelle vous pourrez vous approcher du salut, vous avez affaire à un processus de type gnostique. Alors, il peut y avoir des gnoses dans des contextes, à des époques très divers. En revanche, ce qu'on appelle gnosticisme, c'est là un mouvement historique tout à fait particulier, circonscrit dans l'Antiquité, au IIe et au IIIe siècle de notre ère, dans l'Empire romain. Le gnosticisme puise ses racines dans des traditions anciennes, dans des traditions très variées, qu'il s'agisse du monde babylonien, du monde perse, du monde égyptien, du monde juif, du monde grec, ou plutôt hellénistique, du monde chrétien. Vous voyez, tout ce bassin méditerranéen apporte ces éléments à cette attitude religieuse que les historiens appellent le gnosticisme. Si le concept était utile, on pourrait parler de syncrétisme. Je dis bien si le concept était utile parce que la notion de syncrétisme, ce mélange de différentes traditions religieuses, c'est quelque chose de si général que le mot en vient par ne plus pouvoir dire grand-chose. Je ne connais aucune tradition religieuse qui n'emprunte des éléments à une autre. Le christianisme emprunte énormément au judaïsme, mais le judaïsme emprunte beaucoup à la religion de la Syrie en particulier, d'un côté, et de l'Égypte de l'autre. L'islam empruntera beaucoup au judaïsme et au christianisme. Est-ce qu'il faut pour autant parler toujours de syncrétisme ? C'est là une chose très difficile. Si on veut donner un exemple oriental, on pourra dire que le bouddhisme emprunte à l'hindouisme. Est-ce que pour autant le terme de syncrétisme est légitime ? C'est une question de méthode que je laisse ici de côté. Toujours est-il que le gnosticisme est une attitude mentale au sein de laquelle on trouve des éléments qui proviennent d'à peu près tout le monde méditerranéen. En particulier, le gnosticisme, quand il a une couleur chrétienne, tente d'expliquer le christianisme à l'aide de la philosophie populaire. Selon les interprétations, on va dire dans ce courant-là qu'il y a interpréter ce courant plutôt comme le fait d'esprits religieux qui intègrent différents éléments chrétiens à leur système. Ou peut-être qu'on pourrait parler de chrétiens qui adaptent le christianisme à la philosophie ambiante. La question est très complexe. Comment est-ce qu'on connaît le gnosticisme ? Avant de faire le portrait robot du gnostique, quelques éléments sur les sources. On connaît d'abord le gnosticisme par les adversaires. Alors ça, c'est la connaissance traditionnelle qu'on a du gnosticisme. Irénée de Lyon, mais après Clément d'Alexandrie, Tertullien, Hippolyte, Origène, autant de théologiens des premiers siècles du christianisme qui dénoncent les dangers du gnosticisme. Et vous pressentez que cette dénonciation, c'est celle qui va donner lieu à l'interprétation traditionnelle du gnosticisme comme d'un mouvement minoritaire, un mouvement dangereux, contre lequel la Grande Église a finalement triomphé. On connaît aussi le gnosticisme par des textes gnostiques. Et là, il faut parler de quelques textes qui ont été découverts au XIXe siècle, et puis surtout ces textes de Nag Hammadi, que j'ai cité tout à l'heure, dont la découverte remonte à 1945-1946. Il y a de très nombreux systèmes gnostiques. Si vous voulez un petit livre aussi clair que possible sur le gnosticisme, je vous recommande de Madeleine Scopello. Un titre dont je vois que j'ai oublié de l'indiquer dans la bibliographie,
un petit livre intitulé « Les Gnostiques » paru il y a une quinzaine d'années, dans lequel je puise un certain nombre des renseignements que je vous transmets maintenant. Le gnostique, faisons-en ici une sorte de portrait à grands traits. C'est un homme en recherche qui observe le monde et qui constate que le monde est fait de contradictions. Il y a d'un côté la lumière, il y a de l'autre la ténèbre. Mais quand vous regardez le jour et que vous regardez la nuit, est-ce que vous avez affaire à des réalités qui ont la même consistance ou bien à des réalités qui sont opposées? Voyez, est-ce qu'il y a une réalité de la lumière d'un côté et une réalité de la nuit de l'autre? Est-ce qu'il y aurait une réalité du chaud et une réalité du froid? Quand vous regardez le ciel étoilé, est-ce que les étoiles et la matière noire qui les entoure sont des partenaires ou bien des ennemis? Est-ce que les étoiles qui brillent dans le ciel sont en train de se battre pour briller? Et est-ce que la nuit qui les entoure essaye de les engloutir? Ou bien est-ce que les deux, la lumière et les ténèbres, travaillent en bonne intelligence? Voilà le type de questions qui ne sont pas celles des astrophysiciens d'aujourd'hui que posent les gnostiques. Si vous allez regarder non pas le ciel, mais l'être humain, vous voyez qu'il est pétri de contradictions. D'un côté, vous disposez d'un cerveau qui vous permet par la pensée de vous projeter à d'autres époques, d'imaginer le futur ou de vous rappeler le passé. Vous pouvez, sans quitter cette salle, penser à telle personne qui n'est pas ici. Vous pouvez, sans quitter cette salle, penser au lieu où l'année dernière vous avez passé des vacances, même s'il est à 10 000 km d'ici. Donc, par la pensée, nous avons des capacités de déplacement dans le temps et dans l'espace qui sont phénoménales, mais notre corps ne suit pas. Comme s'il y avait une contradiction entre la puissance fulgurante de la pensée et la pesanteur de la matière. Et si l'on regarde le monde moral, on voit du bien et on voit du mal, comme s'il y avait là deux entités en lutte perpétuelle. Ces deux entités, elles sont présentes en l'humain. Et c'est ainsi que le gnostique représente l'humain comme un être mixte, où ces deux choses inconciliables sont mêlées de façon absurde, comme si mon corps était une prison dans laquelle mon âme était captive. Vous voyez, mon corps est fragile, il est souillé, il est soumis à la corruption, il est soumis à la douleur. Mais mon âme n'est pas soumise à cette douleur. La preuve, dit le gnostique, c'est que quand vous dites « j'ai mal », par exemple « j'ai mal aux dents », qui est le « je » de cette phrase? La carie dentaire elle-même n'a pas mal. Si vous éprouvez cette douleur dans votre corps, dit le gnostique, eh bien, c'est qu'il y a un pouvoir de distanciation. Vous, c'est votre âme, cette étincelle de vie qui est au milieu de vous, et si vous éprouvez la douleur, c'est que cet organe qui vous fait mal est quelque chose d'extérieur à vous, parce que la douleur ne peut pas faire mal à la douleur. S'il y avait identité, dit le gnostique, entre ce corps et moi, je ne pourrais pas éprouver de douleur. Donc, je suis constamment l'objet d'un conflit entre plusieurs choses, le bien et le mal, la lumière, la ténèbre, la santé, la maladie, etc. Le gnostique, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de poser des questions. Alors, il y a différentes écoles de gnostiques. Je cite ici un gnostique qui s'appelle Théodote, l'évêque d'un gnostique fameux, Valentin, qui pose des questions comme « Qui sommes-nous ? Où est-ce que nous avons été jetés ? Où allons-nous ? » Alors, prenons ces trois questions. Qui sommes-nous ? Eh bien, pour le gnostique, nous sommes une parcelle de divin. Quand le gnostique dit « je », il ne désigne certainement pas son corps, mais il désigne cette parcelle divine, cette étincelle qui est en lui. Et c'est ainsi que le gnostique
sera très sensible à une parole comme celle du Christ dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, « Le royaume est en vous ». Ce royaume n'est pas à chercher en dehors de vous, il est en vous. En humin. Alors ça peut vouloir dire parmi vous, mais ça peut aussi vouloir dire en vous. Et le gnostique le comprend comme en vous. Il est caché en vous. Vous devez trouver ce royaume. Vous devez trouver en vous cette étincelle divine. Or, cette parole de Jésus se retrouve précisément dans l'évangile de Thomas, un évangile gnostique qui a été découvert en 1945 à Nag Hammadi. Donc voilà qui nous sommes. Nous sommes en être où absurdement mêlés se côtoient le mal, le bien, la matière, l'esprit. Et nous devons retrouver cette étincelle qui est en nous. Où est-ce que nous avons été jetés, demande Théodote. Eh bien, cette étincelle divine que nous sommes, elle existe de toute éternité, même si nous n'en avons pas à la mémoire, et nous avons été jetés dans la prison de la matière. Voilà ce qu'on trouve dans le Corpus Hermétique, et ce texte est cité, précisément, vous avez ici la référence chez Madeleine Scopello, Les Gnostiques, un livre paru en 1991. Il faut déchirer de part en part la tunique qui te revêt, le tissu de l'ignorance, le support de la malice, la chaîne de la corruption, la geôle ténébreuse, la mort vivante, le cadavre sensible, le tombeau que tu emportes avec toi. Je m'interromps ici. Vous voyez cette triste condition qui est la condition humaine. Nous portons avec nous, comme la tortue qui a sa carapace sur le dos, nous portons avec nous notre tombeau. Nous portons avec nous ce corps dans lequel nous sommes enfermés et dont il faut essayer de se libérer. C'est comme, et c'est terrible cette formule, c'est comme un cadavre sensible, un cadavre soumis au sens, au chaud, au froid, à la douleur. Alors que notre âme n'est pas soumise au sens. Tel est l'ennemi que tu as revêtu comme une tunique, qui t'étrangle et t'attire en bas, vers lui, de peur que, ayant jeté les yeux en haut et contemplé la beauté de la vérité, tu ne viennes pas à haïr la malice de l'ennemi, ayant compris toutes les embûches qu'il a dressées contre toi. Il faut regarder vers le haut, dit le gnostique, et se dépêtrer de cette prison charnel. Alors, où allons-nous? Ça, c'est encore une grande question existentielle humaine. Pour le gnostique, nous avons été jetés dans une prison et nous devons maintenant retourner là d'où nous venons, vers notre patrie céleste. C'est un voyage initiatique qui est réservé, pardonnez-moi de vous le dire, à très très peu parmi nous. Certains gnostiques disent 1 sur 1000. D'autres sont plus sévères, disent 2 sur 10 000 peut-être. Celui qui a la gnose, celui qui a la connaissance, est un être d'en haut, mais seuls quelques-uns, les happy few, peuvent suivre l'initiation qui leur permettra de se débarrasser de cette prison corporelle. Il y a une autre question que posent les gnostiques, et c'est celle-ci. D'où vient le mal? Le mal ne vient certainement pas de Dieu, puisque Dieu est bon. Mais il vient d'un démiurge, d'un être qui a créé la matière et qui souvent est identifié au Dieu de l'Ancien Testament. Il y a chez les gnostiques un dualisme radical, une cosmologie très complexe dans laquelle on voit ces deux dieux, le dieu du bien de l'esprit, le dieu du mal de la matière, qui se battent et qui construisent quelque chose qui va être ensuite le théâtre de leur conflit. Le Dieu de l'esprit est le créateur de notre âme, le Dieu de la matière est le créateur de notre corps. Donc nous avons été créés d'une certaine façon par ces deux dieux, ou plutôt, dirait le gnostique, nous avons été créés par le Dieu de l'esprit, parce que le nous c'est seulement cette étincelle, puis le reste, ce corps, cette enveloppe, ça n'a rien à voir avec nous. C'est une prison dont il faut se dépêtrer. Et de même que personne d'entre nous n'est le vêtement qu'il porte. Je ne suis pas ma chemise ou ma cravate, vous n'êtes pas votre veston et personne n'est ses propres lunettes. De même, pour le gnostique, on n'est pas le corps qu'on habite. Note en bas de page. C'est normal de dire, on ne dira pas « je » si l'on parle de ses chaussures, de ses pantalons ou de son veston. Mais il y a quelques objets dans le comportement de tous les jours que l'on considère comme étant comme en prolongement du corps. Quand vous voyez un automobiliste, eh bien, il vous dira « je dois faire vite parce que je suis mal parqué ». Il ne dira pas « je » à propos de ses habits, mais il dit « je » à propos de sa voiture. Même chose à propos de la montre. On dira « ouh, je retarde de 10 minutes ». Comme si la montre était le prolongement du corps. Mais jamais personne ne dit « je suis un peu trop serré au col ». Il dira « ma chemise est trop serrée ». Donc, je vous laisse avec cette réflexion anthropologique. Le corps se prolonge dans le langage courant avec la montre, avec la voiture. Ou bien le cycliste, il dira aussi « j'ai crevé ». Il dira pas ça. Étrange. Eh bien, pour le gnostique, le « je » ne concerne que cette étincelle qui est en nous. Le reste, c'est tout ce qui est extérieur, c'est cette matière dont il faut se libérer. Pour les gnostiques, il n'y a pas de Dieu incarné. Le Christ incarné, tel que le présentent les évangiles, ou tel que la tradition de la grande Église le fera valoir, ça n'est pas pensable. Dieu, c'est l'esprit. Cet esprit ne peut rien avoir à faire avec la matière. Et puis, pire encore, ce Dieu ne peut pas être mis à mort. Dire que Dieu est cloué sur une croix, c'est quelque chose qui n'a aucun sens pour un gnostique, qui n'a aucun sens, d'ailleurs, plus généralement, pour un esprit platonicien. Et c'est pour ça qu'au sein du gnosticisme, on verra rapidement se développer une pensée selon laquelle le Christ qui meurt sur la croix n'est en réalité pas le Christ, c'est quelqu'un d'autre qui prend sa place. Le Christ lui-même, à la faveur d'un tour de passe-passe, de dernière minute, alors qu'on monte au Golgotha, se retire de là et assiste ensuite à la scène, et il voit un autre se faire crucifier à sa place, un autre que certains identifieront parfois à Simon de Cyrène, qui dans l'Évangile aide le Christ à porter sa croix, et puis ensuite, mouvement de foule, on confond Jésus et Simon, et voilà qu'on crucifie Simon. Dans l'Apocalypse de Pierre, et c'est encore un texte gnostique trouvé à Nag Hammadi, on dit ceci, « Celui dans les mains et les pieds duquel il plante des clous, c'est le substitut livré à la honte. » Ça n'est pas le Christ. Quelle postérité du gnosticisme ? Il a perdu du terrain au IIIe siècle. Mais de façon générale, il faut reconnaître que l'attitude dualiste qui plongeait ses racines dans la pensée grecque et chez Platon en particulier va trouver des prolongements plus tard dans une nouvelle religion qui sera celle du prophète perse Mani, mort, assassiné en 276. Mani intégrera un certain nombre d'éléments du bagage chrétien mais se présentera comme le prophète fondateur d'une nouvelle religion. Et cette religion, le manichéisme, on la croisera à nouveau dans quelques semaines quand il sera question des cathares. Mais voyez, plus généralement, l'attitude fondamentale qui consiste à considérer le monde comme le jouet de forces antagonistes, qui consiste à opposer la matière et l'esprit, qui consiste à chercher la réalisation du soi au détriment de tout ce qui est matériel et parfois même de l'attention portée à l'autre, tout cela, d'une certaine façon, a à voir avec le gnosticisme. Cette mouvance religieuse d'il y a une vingtaine d'années qu'on appelait le New Age, mais qui est déjà largement oubliée, pourrait être lue comme une nouvelle incarnation du gnosticisme. Ce qui montre bien que les gnostiques du IIe siècle ont posé des questions qui sont de réelles questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bien? L'humanité n'a pas fini de se débattre avec ces questions. Et peut-être bien que cela fait partie de la définition même du être humain que de se poser ces questions. Parce que celui, celle qui ne se pose pas ces questions, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qui suis-je, il lui manque probablement quelque chose qui constitue l'humanité. Je laisse là les gnostiques pour envisager brièvement avec vous Marcion. C'est un homme qui est originaire du Pont, près de la mer Noire, Asie Mineure, qui est connu d'abord comme riche armateur de bateaux
et qu'on trouve actif en tant que prêtre à Rome. Il va être excommunié à Rome en 144, mais son enseignement va connaître une large diffusion. Le nom d'un grand historien allemand d'il y a un siècle est associé à celui de Marcion. Je veux parler de Adolf Harnack, qui s'appellera après, qu'il aura été anobli, Adolf von Harnack, 1851-1930, qui voyait en Marcion le plus grand théologien que le christianisme aura connu entre Paul et Augustin, dans une ligne qui conduit, disait Harnack, à Luther. Se dire qu'on a affaire à quelqu'un d'intéressant à propos de Marcion. L'origine de la réflexion de Marcion est à trouver dans la distinction paulinienne entre la loi et l'évangile. Marcion, d'une certaine façon, est en phase avec le dualisme gnostique et il va chercher à distinguer autant que faire se peut le Dieu de Jésus-Christ du Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de Jésus-Christ, dit Marcion, n'est pas le créateur du monde. Et les gnostiques disent la même chose. En conséquence, l'Ancien Testament ne doit pas être lu de façon allégorique, de façon symbolique, comme annonçant le Christ. Quand il y a des bons dans l'Ancien Testament, ce sont justement des gens qui sont contre le Dieu de l'Ancien Testament. Vous voyez, il y a par exemple, deux frères. Vous les connaissez sans doute, ils s'appellent Caïn et Abel. Et puis, il y en a un qui célèbre en sacrifice, qui agrée Dieu, et puis l'autre célèbre en sacrifice que Dieu ne veut pas. Alors, Abel a de la chance, provisoirement, parce que son sacrifice est accepté par Dieu. Caïn a de la malchance, parce que son sacrifice, à lui, n'est pas accepté. Voilà que Caïn va tuer Abel. Eh bien, pour Marcion, le bon de l'histoire, c'est Caïn, et le méchant, c'est Abel. Pourquoi ? Eh bien, parce que Abel est du côté de ce Dieu méchant, créateur. C'est un complice de ce Dieu-là, et Caïn, c'est celui qui s'emporte contre ce Dieu créateur, contre ce Dieu méchant. Donc, abat Abel et vive Caïn. Et vous reprenez tous les textes de l'Ancien Testament dans cette perspective-là, tous ceux qui sont décrits comme étant les méchants dans l'Ancien Testament, mettons les Philistins, mettons tel faux prophète, eh bien, ce sont des bons pour Marcion, et tous ceux qui sont mis en évidence, en valeur dans l'Ancien Testament, ce sont au contraire des méchants. Autant vous dire que les habitants de Sodome, les Égyptiens, tout ça, c'est des bons. Et puis le peuple d'Israël, Abraham, ce sont des méchants. Le Dieu bon, pour Marcion, apparaît sous la forme du Christ. C'est-à-dire que le Christ, c'est un mode d'être de Dieu. On n'est pas encore dans cette relation que nous verrons la semaine prochaine à propos de la Trinité entre un Dieu Père et un Dieu Fils. Ce Christ n'a pas de corps terrestre. Il est venu abolir la loi du Dieu méchant et il a suscité un apôtre, et un seul apôtre, qui est Paul. Voilà donc Marcion qui met Paul en avant. Et il va établir un canon de ce qu'on appellera plus tard le Nouveau Testament. Tout ce qui, dans les textes qui circulent dans les églises, lui apparaît comme trop entaché de cette ancienne tradition de l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appelleront l'Ancien Testament, il va l'écarter. Matthieu, Marc, Jean, il n'en veut pas. Il prendra un seul évangile, c'est celui de Luc, dans lequel il va exclure tous les éléments qui lui paraîtraient judaïsants. Et dans les épîtres de Paul elle-même, Marcion manie la paire de ciseaux et puis enlève tous les passages dont il dirait qu'ils sont corrompus parce qu'ils présentent le Dieu créateur en bonne part. Et voilà un travail herméneutique qui est établi. Marcion a une idée de Dieu et au nom de cette idée de Dieu, il va établir un corpus de textes qu'il aimerait voir définir la foi chrétienne. Alors malheureusement, on ne possède pas ce Nouveau Testament très bref de Marcion. Mais Harnack, d'autres savants, ont essayé de le reconstituer d'après les attaques des adversaires de Marcion, de Tertullien en particulier. On sait que Marcion rejette tout renvoi à l'Ancien Testament quand ce renvoi est pris de façon favorable. On sait aussi qu'il supprime, bah, bien évidemment, tout le récit de la naissance de Jésus. Il commence dans l'évangile de Luc avec la prédication de Jésus. Du moment que ce Dieu apparaît, mais de façon spirituelle, Marcion ne va pas prendre la peine de le faire naître comme un bébé la nuit de Bethléem. À bien des égards, Marcion est proche des gnostiques. Mais il y a deux éléments qui interdisent de le considérer comme un gnostique lui-même. Première chose, il aurait détesté toutes ces spéculations cosmologiques qui apparaissent comme un peu farfelues des gnostiques. Puis deuxièmement, Marcion ne partage pas la conception anthropologique des gnostiques d'une sorte d'étincelle divine enfermée dans la prison du corps. Marcion a été rejeté au IIe siècle. Ses textes n'ont pas été conservés, sinon chez leurs adversaires, et c'est Arnac qui, il y a un siècle environ, a fait valoir la ligne théologique de Marcion. Dans un texte qu'il a publié sur Marcion et qui a été plus tard traduit en français, je vous en ai donné la référence, la traduction française a paru en 2003. Voilà ce que dit Arnac de Marcion. Alors, j'ai indiqué ça en allemand parce que c'est plus beau en allemand, mais je vais vous le lire en français. Au IIe siècle, rejeter l'Ancien Testament, ce qu'a fait Marcion, c'était une faute que la grande Église a récusée à bon droit. Conserver l'Ancien Testament au XVIe siècle, c'était une fatalité avec laquelle la Réformation ne pouvait pas encore prendre sa distance. Mais continuer depuis le XIXe siècle à conserver l'Ancien Testament comme une source canonique au sein du protestantisme, cela, c'est la conséquence d'une paralysie religieuse et ecclésiastique. Voilà donc Arnac, qui revendique, au début du XXe siècle, un christianisme, dans la ligne de Marcion, entièrement purgé de tout élément judaïsant. Alors l'historien, un siècle plus tard, voit bien sûr ce théologien Arnac comme l'un des esprits de ce courant qu'en Allemagne on appelle, au début du XXe siècle, le mouvement Völkisch, le mouvement populaire. Il faut retrouver un christianisme qui soit allemand, et un certain nombre de théologiens, Arnac et de ceux-là, vont revendiquer un christianisme allemand. Quand l'Allemagne, en 1914, déclare la guerre et envahit la Belgique neutre, Arnac sera de ceux qui applaudiront des deux mains et qui iront jusqu'à dire qu'au ciel, les anges se réjouissent parce que le christianisme allemand est en train de vaincre. Karl Barth, à ce moment-là, tournera définitivement le dos à Arnac. Mais vous voyez que la position d'un théologien comme celui-ci, sans parler de ce qui viendra après, parce que Arnac ne connaît pas le Troisième Reich, il meurt en 1930, la position d'un théologien comme celui-ci s'inscrit dans un contexte historique particulier, dont la suite montrera un certain nombre de conséquences catastrophiques. Face aux hérésies du IIe siècle, eh bien, ce qu'on appelle par commodité la Grande Église va réagir. Pourquoi est-ce qu'on réagit? Eh bien, c'est au nom d'arguments comme ceci, j'en cite deux ici. Le gnosticisme, religion du salut, religion de cette étincelle divine en l'humain, fait comme l'économie de toute structure ecclésiale. Vous voyez, c'est l'individu qui est en contact avec Dieu ou qui n'est pas en contact avec Dieu. La communauté passe au second plan. Or, d'autres courants chrétiens feront valoir, à l'inverse, la notion de communauté. S'appuieront sur des textes comme « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». S'appuieront sur des textes comme la prière dominicale du Christ, qui n'enseigne pas à dire « Mon Père qui est aux cieux », mais « Notre Père qui est aux cieux ». Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, aimez-vous les uns les autres, etc. Eh bien, dans cette ligne-là,
on va trouver un certain nombre d'arguments qui seront utilisés pour dénoncer le gnosticisme en tant que religion qu'on appellerait aujourd'hui proprement individualisme. Autre argument utilisé contre le gnosticisme, c'est qu'il intègre un certain nombre de points qui sont chers au Nouveau Testament. Le monde est perdu, le salut nous est promis, il y a un sauveur. Mais il contredit ce qui apparaît comme l'un des fondements principaux du christianisme, à savoir en Dieu incarné en Jésus-Christ. Alors, en maintenant la notion d'un Dieu incarné en Jésus-Christ, en maintenant le prologue de l'évangile de Jean, le Verbe a été fait chair, on va contre l'un des principes du gnosticisme. Le Dieu des gnostiques, d'ailleurs, ne dirait jamais qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Dans la perspective du salut gnostique, on doit rechercher son salut personnel. On ne doit pas se préoccuper du salut des autres qui sont eux-mêmes responsables pour eux-mêmes. Voyez comment ces débats ont déchiré l'Église au IIe siècle. Voyez comment c'est peu à peu défini une orthodoxie et une orthodoxie, une hétérodoxie ou une hérésie et une orthodoxie au moment où les communautés chrétiennes s'institutionnalisent. Nous avions évoqué tout au début de ce cours le cas de Jan Hus à la fin du Moyen-Âge. Il est vrai que dans la suite de l'Antiquité, on dénoncera un certain nombre d'hérésies. Et nous en verrons la semaine prochaine quand il sera question de la Trinité à propos d'Arius, un prêtre d'Alexandrie du début du IVe siècle. Nous en verrons plus tard quand il sera question pour le Moyen-Âge des cathares. Mais par la suite, est-ce qu'il y a encore des hérésies? Depuis le XVIe siècle, du point de vue des historiens, il est très difficile de parler d'hérésie dans l'Europe latine. Est-ce qu'on va dire que toute la moitié de l'Europe qui devient protestante, pour employer une étiquette commode, est hérétique? Est-ce qu'on va dire au contraire que toute la moitié de l'Europe qui reste romaine, pour employer une autre étiquette, est hérétique? On voit bien que c'est assez difficile sans s'inscrire soi-même dans un camp contre l'autre. Alors bien sûr, au XVIe siècle, les historiens d'obédience protestante considéreront l'Église de Rome comme hérétique. Les historiens d'obédience catholique romaine considéreront tous les protestants globalement comme des hérétiques. Et au sein des historiens, la notion d'hérésie sera un outil dans l'arsenal polémique contre l'autre confession. Au XXe siècle, et aujourd'hui, à plus forte raison, il paraît difficile de continuer à s'inscrire dans cette perspective-là. C'est la raison pour laquelle prédominent d'autres concepts qui, en tant que tels, n'ont rien de péjoratif, comme le concept de schisme, de déchirure. On dira qu'il y a un schisme dans l'Europe du XVIe siècle, qu'il y a deux façons d'être chrétien globalement et qu'il y a une séparation entre l'une et l'autre sans impliquer de jugement de valeur pour ou contre chacun des deux volets de ce schisme. Si l'on parle de dissidence, eh bien on désigne un groupe qui, sociologiquement, démographiquement, est minoritaire et s'écarte d'une voie qui, majoritairement, va continuer à prédominer. Mais parler de dissidence, ça ne veut pas dire pour autant qu'on considère que les dissidents sont des gens qui se trompent, ou des gens qui ne sont pas recommandables, ou des gens dont il faudrait prendre ses distances. Hein, c'est parfois chez ceux qui sont marginaux, chez ceux qui sont dissidents, qu'on trouve des intuitions qui renouvellent la façon de comprendre le monde. Du côté de l'Église romaine, au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, on continue à parler d'hérésie. On continue à prononcer des condamnations contre les hérétiques. La condamnation, c'est un terme ecclésiastique, ce qu'on appelle un anathème. Le Concile de Trente va énoncer la foi et déclarer condamner ceux qui ne partagent pas cette foi. En 1870, le Concile de Vatican I va procéder exactement de la même façon. Mais bouleversement de la situation, changement de décor, quand on est au Concile de Vatican II,
celui que convoque Jean 23, mais l'autre Jean 23, Roncalli. Quand on est au Concile de Vatican II, entre 1962 et 1965, on énonce un certain nombre de principes de foi, mais on ne prononce aucune condamnation. On est dans une dynamique tout à fait différente. On cherche à dire quelle est la foi, on cherche à dire quelle est l'Église, mais sans rechercher à délimiter et encore moins à exclure. Donc, parler d'hérésie dans l'ecclésiologie catholique romaine contemporaine, d'après le Concile de Vatican II, est quelque chose qui est devenu très difficile. Il peut y avoir des condamnations, mais le mot d'hérésie, d'hérétique, n'est plus guère prononcé. Et puis, du côté protestant, là non plus, il est difficile, enfin, là également, il est devenu très difficile d'envoyer à la tête de l'adversaire théologique l'étiquette « sale hérétique ». Cela ne veut pas dire que toute position serait acceptée. Et on a un exemple d'il y a une petite trentaine d'années, quand l'Alliance réformée mondiale a pris position contre deux églises membres de l'Alliance, c'était en 1982, deux églises qui ont été littéralement excommuniées. Des églises auxquelles on a dit « si vous continuez à défendre ce principe que nous considérons comme faux, vous êtes exclus des rangs de l'Alliance réformée mondiale ». Il s'agissait d'églises d'Afrique du Sud qui, pour des raisons théologiques ou avancées comme telles, défendaient l'apartheid. Des églises qui disaient que pour être membre, pour être fidèle dans telle congrégation, il fallait avoir la peau de telle couleur, et qui excluaient les Noirs de l'appartenance à cette église. Eh bien, l'Alliance réformée mondiale a considéré que c'était là une hérésie. Non pas une hérésie doctrinale, mais plutôt une hérésie morale, une hérésie éthique. Et c'est ainsi que ces églises ont été condamnées. Ce n'est pas l'apartheid lui-même qui est une hérésie, c'est la justification théologique qui en a été faite par certaines églises qui a été condamnée par l'Alliance réformée mondiale. Donc, d'une certaine façon, le processus de délimitation, d'exclusion, existe encore. Et chacun a conscience du fait qu'il y a des cas où il faut placer une limite quelque part et dire que si vous allez au-delà de cette limite, nous ne pouvons pas vous reconnaître comme étant membre de notre communion d'église. C'est ce qu'a fait l'Alliance réformée mondiale dans les années 80. C'est d'une certaine façon ce qu'a fait l'Église de Rome jusqu'à Jean 22 à propos de ceux qui ont quitté l'Église à Vatican II, la mouvance intégriste de Mgr Lefebvre. Il y a une exclusion parce qu'on ne reconnaît pas la communion avec telle forme d'Église, mais il n'y a plus pour autant de recours à l'adjectif hérétique ou au concept d'hérésie. Pour le reste, la compréhension aujourd'hui d'un christianisme originel qui est marqué par la diversité rend probablement caduque la poursuite et l'acharnement contre les hérétiques. Je vous remercie de votre attention et vous donne volontiers rendez-vous à mercredi prochain.